RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Nous vivons des temps de scrutin répétés, présidentiels, puis bientôt législatifs. Alors je vous invite à prendre un peu d'altitude, à respirer au-dessus de nos débats électoraux. Car depuis 2500 ans, des hommes, certains hommes, votent. Depuis Aristote jusqu'à la Ve République, en passant par Kennedy et Shakespeare, quels sont les sentiments, les passions qui se développent lors d'une élection ? Tant du point de vue de l'électeur que du candidat. Et puis chez nous en France, nous allons nous pencher sur un symbole, celui de nos trois couleurs. Que signifie ce bleu, ce blanc, ce rouge ? Que signifie leur alliance ? Comment notre drapeau est-il né ? Comment a-t-il vécu au sein du peuple, au sein des peuples ? Avec nous deux historiens, Laurent Pernaud, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes normalien, agrégé de lettres, vous enseignez à l'université de Strasbourg, vous êtes membre de l'Institut, et votre livre s'intitule « La fièvre des urnes, 2500 ans de passion électorale », que nous allons donc scruter avec vous. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Sophie Ouanich, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, directrice de recherche en sciences politiques au CNRS, spécialiste de la Révolution française. Et votre livre s'intitule « Le ruban tricolore ». On verra en quoi il s'agit vraiment d'un ruban. « Le ruban tricolore, un lien politique ». Et c'est publié chez Bayard Édition. Voilà le thème de notre conversation aujourd'hui. Donc, trois couleurs et 2500 ans de passion partagée.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent en compagnie de deux historiens, Laurent Pernaud pour son livre « La fièvre des urnes, 2500 ans de passion électorale » aux éditions de l'Observatoire, et Sophie Ouanich pour « Le ruban tricolore, un lien politique », c'est publié chez Bayard Édition. Alors Laurent Pernaud, vous avez scruté l'histoire des scrutins, l'histoire des passions politiques. Alors ma première question sera simple, la fièvre des urnes est-elle de tous les temps ?
Il faut en effet prendre de la distance historique. Nous sommes dans un contexte de saturation,
voilà,
de l'espace politique et médiatique avec le sujet des élections. Et en même temps, on a l'impression que tout est joué et qu'on connaît le résultat d'avance. Et donc, pour échapper à ce sentiment d'une situation entêtante, il faut prendre du recul.
Ouais.
Il faut prendre du recul, et le recul, on l'a en se tournant vers l'histoire. Le sujet qui m'a intéressé, c'est donc celui des passions politiques. Ça va pas de soi parce que on présente souvent les élections de manière rationnelle. On parle de programme, on chiffre les mesures, on compare.
Disons qu'on essaye d'être rationnel.
Voilà.
Voilà. Mais en fait, non.
Mais derrière,
oui, voilà.
Derrière ou en dessous, il y a une dimension véritablement passionnelle du scrutin, tant chez les électrices et les électeurs, qui sont animés, donnons tout de suite des exemples, par l'orgueil d'élire, parfois par la colère ou par l'espoir, que chez les candidates et les candidats qui peuvent être mus par l'ambition, notamment, ou la rage, ou bien d'autres
ou la jalousie, tant de passions. Donc vous avez scruté ce paysage passionnel. En fait, vous proposez, à travers votre livre, une véritable méditation sur la recherche et l'exercice du pouvoir. Et vous avez scruté différents matériaux. On peut comprendre en vous lisant que les passions s'expriment dans un matériel bigarré, des discours, des histoires, des fictions, des chansons, des reportages, des journaux, des mémoires, des correspondances. Et on va le voir au fil de cette conversation. Vous convoquez Zola, Shakespeare, Kennedy, Périclès, Cicéron. Rien de moins. En fait, on a l'impression en vous lisant que les élections sont un passage obligé qui font à la fois notre croix et nos délices. Alors, la première question, quand même, c'est quand même comment est-ce que vous voyez cette sorte de fatigue démocratique qui semble peser sur nous aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de l'abstention. Beaucoup de gens nous disent, qu'ils soient originaires de droite ou de gauche, beaucoup de gens nous disent « Oh non, finalement, c'est pas la peine, ça sert à rien, le système est à bout ». Quel regard vous portez sur cette apathie apparente ?
Apparente,
oui.
Apparente, vous l'avez bien dit, on a l'impression que les Français ne se passionnent pas pour ces élections. On le dit parfois. J'ai l'impression que c'est un calme de surface et que cette apparence ne veut pas dire que les électeurs n'éprouvent pas différentes passions, y compris le désespoir, le mépris et la colère.
Ce sont de véritables passions.
Donc selon moi, les passions sont là, elles couvent.
Oui.
Et si elles ne se déchaînent pas maintenant, elles pourront se déchaîner ensuite.
Ensuite, c'est-à-dire
après le vote.
Sous une autre forme. Oui.
Et c'est pourquoi il est peut-être bon d'en parler maintenant et de les remettre à leur place.
Et de les analyser.
Et même, je dirais, c'est un travail à faire pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire au moment où chacun de nous va aller voter, j'espère que nous irons voter tous, eh bien, il faudra analyser ses propres motivations et se rendre compte que tout n'est pas calcul rationnel.
Sophie Wenisch, vous avez étudié la Révolution française. On verra dans un moment le travail précis que vous avez réalisé sur le ruban tricolore en tant que lien politique. Mais à travers votre travail sur la Révolution française, comment évaluez-vous les passions qui nous ont remués à l'époque ?
Alors, mon travail porte depuis longtemps sur non pas les passions, mais les émotions. Et je tiens à la différence des
Allez-y,
termes.
Expliquez-nous.
Parce que la passion, c'est la passivité. Et l'émotion, c'est la motion. C'est-à-dire la possibilité de créer une dynamique. Et donc, quand on parle d'apathie, je crois que c'est légitime de classer du côté des passions. Parce qu'il y a bien quelque chose qui fige le corps social dans un rapport où il a perdu la foi dans son propre système.
Oui. Vous utilisez des mots précis.
Voilà.
Il a perdu la foi dans le système, oui.
C'est ça.
D'accord.
Et donc, du coup, effectivement, il se retrouve dans une passion, c'est-à-dire quelque chose qui l'immobilise. Alors que les émotions sont les choses qui habitent le corps, qui nous transportent, qui nous obligent et qui créent au contraire l'ardeur politique. Et je dirais que quand il y a des passions qui surgissent dans un moment électoral, c'est un peu les buts témoins de l'enthousiasme démocratique. Et malgré tout, même si c'est fragile et même si ce ne sont que des buts témoins, c'est important de repérer les raisons pour lesquelles il y a quand même ce surgissement d'émotions et pas simplement de passions. C'est-à-dire, je crois que c'est important dans le contexte. Et je crois que du coup, c'est plutôt du côté des émotions, parce que je suis d'accord avec mon collègue. C'est-à-dire que ce qui se joue au moment du scrutin ne se joue pas qu'au moment du scrutin, car on est historien. L'événement, et en particulier les élections, c'est un événement rituel, en fait, sont des moments de cristallisation d'un certain nombre de représentations mentales, imaginaires ou pas imaginaires, en tout cas une manière de regarder le monde et de se situer dans le monde, et ces manières-là qui se cristallisent au moment électoral vont se déployer après. Sous quelle forme personne ne peut le dire. Mais en tout cas, elles ne vont pas se contenter d'être présentes comme but témoin au moment électoral.
Alors, pouvez-vous nous rappeler quelles ont été pendant ces quelques années de notre Révolution française, ces fameuses buts témoins que vous évoquez. Autour de quoi se sont jouées ces émotions révolutionnaires, peut-être entre la rue et les urnes, je ne sais pas.
Alors, la question électorale dans la période de la Révolution française est à la fois très importante, puisqu'on est en train d'inventer la manière dont s'organise le rituel, mais en même temps beaucoup plus marginale qu'aujourd'hui, car on ne considère pas que la politique démocratique, ou on ne parle pas à ce moment-là de politique démocratique, on parle de gouvernement populaire, ou de république, ou même de monarchie constitutionnelle, où on a déjà quand même un certain nombre de rituels à préparer. On ne considère pas que le moment électoral soit le moment phare. On considère que c'est le moment conclusif d'un débat.
D'un débat qui a eu lieu antérieurement.
D'un débat qui anime la société.
Mais sous quelle forme et de quelle façon ?
Alors, on a du mal à le concevoir, mais dans la période révolutionnaire, et même dans la période, je dirais, d'avant la Révolution, c'est-à-dire d'avant la transformation des États généraux en Assemblée nationale constituante, il y a une animation très très forte dans le pays, et en particulier une série d'émeutes autour des questions des subsistances d'une manière classique, mais aussi autour de cette question des subsistances, autour de la question de l'absolutisme et de la légitimité de l'absolutisme. Donc il y a quelque chose...
Une remise en cause.
Qui anime vraiment l'ensemble du pays.
Et toutes les strates de la population.
Les émeutes, elles ne sont pas sur toutes les strates de la population. Je peux juste considérer que c'est quelque chose qui va conduire à prendre conscience pour le tiers-État qu'il est, quelle que soit sa richesse, bien distinct de la noblesse. Et que les alliances qui ont été faites avec le Parlement ne peuvent pas tenir, les parlements, c'est-à-dire les lieux de justice où sont les nobles robins, ne peuvent pas tenir bien longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la préparation des cahiers de doléances. Et cette préparation des cahiers de doléances crée une effervescence en tant que c'est le lieu où on va pouvoir exprimer et réfléchir à ce qu'on considère comme n'allant pas. Et c'est autour de la préparation de ces cahiers de doléances que les débats sont extrêmement nourris. Ordre par ordre. Donc, ce n'est pas que ça traverse toute la société, ça ne traverse pas toute la société. Ça construit la position de chaque ordre. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que, du coup, le moment électoral, en tant que tel, c'est un moment qui vient conclure
cette dimension.
Voilà. Or, aujourd'hui, on est loin de cela puisque, justement, il n'y a pas assez de débats.
Laurent Pernault, quel regard vous portez sur cette époque de la Révolution, cette époque un peu fondatrice de notre démocratie, sur le plan des passions ou des émotions, comme on disait tout à l'heure.
Époque fondatrice, et du point de vue juridique, c'est le moment où on a essayé d'encadrer justement ce phénomène et de créer ce moment de l'élection que j'appellerais moi une sorte de sublimation du point de vue des passions, c'est-à-dire les passions sont là et elles sont sublimées dans le moment électoral. Car si tout fonctionne bien, elles vont être réglées par le nouvel État qui sera décidé par le vote.
Si tout fonctionne bien,
s'il n'y a pas évidemment de remise en cause du scrutin. Si on prend une perspective historique un peu plus large, il faut souligner que c'est un message de positif, d'optimisme qui se dégage de notre réflexion. Notre présent que tout le monde décrit bien volontiers, en réalité, est très supérieur du point de vue des élections, de la manière dont elles se déroulent, à tous les exemples passés quand on se plonge dans les témoignages que l'on peut avoir chez Balzac, chez Zola. Ce ne sont que élections encadrées, pression, intimidation. Et donc, que nous avons un système ici et maintenant, soyons très clairs, mais ici et maintenant, nous avons un système qui fonctionne mieux qu'il n'a jamais fonctionné.
Finalement, en dépit de tous les reproches qu'on peut lui faire.
Et donc, c'est à ça que ça sert la considération du passé, c'est-à-dire qu'on prend du recul, et puis ce recul ne nous éloigne pas du présent, il nous y ramène en nous permettant de faire une comparaison qui ici fait constater que le système fonctionne.
Sophie Wenisch, vous partagez ce point de vue ?
Je le partage en partie seulement parce que je répète que la question électorale a pris une telle centralité dans notre conception de la démocratie que c'est difficile de comprendre les autres moments et en particulier les moments révolutionnaires. Mais je pense que la grande conquête, c'est la conquête de la Troisième République qui invente l'isoloir. C'est-à-dire qu'à partir où il y a un isoloir, alors ce que décrit Balzac ne sera plus, et ce que décrit Zola est bien sûr lié à son rapport à la conception de la société, qui est particulière. Mais je voudrais revenir sur quelque chose, c'est sur la manière dont les révolutionnaires conçoivent l'élection. Ils la conçoivent comme quelque chose donc qui est accomplissement et où il n'y a pas nécessairement de candidats qui se présentent. C'est-à-dire que c'est les espaces d'administration et les espaces populaires qui font venir des candidats. C'est-à-dire c'est eux qui choisissent. On trouve un tel intéressant et on va même être amené à solliciter des étrangers. solliciter Thomas Paine, solliciter Anna Kersescu.
C'est une émanation.
Donc c'est quelque chose, on a du mal là, pour le coup. On est vraiment dans une étrangeté.
Oui.
Et cette étrangeté est très intéressante parce que ça veut dire qu'on est dans une logique où ce ne sont pas des appareils politiques qui font surgir des candidats par des procédures.
Encore, c'est pas encore des appareils politiques.
Ou encore, ça suppose que c'est mieux, mais moi je suis pas convaincue que ça soit mieux aujourd'hui.
Okay.
La preuve, c'est qu'on a un manque crucial de candidats pertinents à droite comme à gauche.
Et notamment également aux
et
élections
locales.
Et donc,
il y a quelque chose qui me paraît être nécessaire à interroger. Donc non, je ne partage pas l'idée qu'on est dans le meilleur des mondes possibles.
Non, ce n'est pas tout à fait ce qui a été dit. Revenons sur la question...
du point de vue de l'organisation des élections.
Revenons peut-être sur la question de l'isoloir. Je pense que c'est important de rappeler. L'isoloir nous paraît absolument naturel. Et ce geste rituel de passer derrière le rideau nous paraît naturel. En fait, ça a été un aboutissement d'un processus qui a été difficile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, Laurent Pernot?
Extraordinaire, l'isoloir. Oui. Donc, il a été instauré en France par la loi de 1913 à la suite de
1913.
De débats.
C'est
tardif. De très longs débats dans différents endroits. Et si on réfléchit un peu à ce qui se passe dans l'isoloir, c'est un endroit. Les gens croient souvent que isoloir, ça vient du mot seul.
Oui.
Et en réalité, l'étymologie, c'est pas ça. L'étymologie, c'est insula, c'est une île. C'est une île, hein, c'est pas le même mot. Et donc, lorsque j'entre dans l'isoloir, je suis dans une île protégée de tous les ressacs extérieurs, apparemment. Apparemment.
Oui.
Et donc, c'est comme ça que ça va se faire. C'est toutes ces solitudes, les unes après les autres, vont créer la décision collective. C'est le paradoxe. Paradoxe de la démocratie. Mais en réalité, lorsque nous entrons dans l'isoloir, nous y entrons avec toutes nos appartenances.
Eh oui. Et
forcément.
Nos émotions et nos passions.
Et et nos convictions et nos foi. Et donc, c'est un endroit qui est vraiment travaillé de manière paradoxale. L'isoloir, c'est beau qu'il en sorte quelque chose
et
de
puis,
cohérent.
C'est un lieu de sécurité. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'aller voir derrière mon épaule quel est mon choix.
Oui. Ça, c'est ce que le législateur a voulu. Et
Mais il a fallu attendre 1913. Sophie Wenisch, je voulais dire quelque chose sur ce point précis de l'isoloir.
Je pense que c'est quelque chose qui à la fois paraît évident et à certains pas tant que ça, parce que j'ai assisté à des élections il y a déjà un moment à Lyon.
Oui.
En fait, un certain nombre de personnes refusaient d'entrer dans l'isoloir.
Ah oui, c'est-à-dire que ces personnes allaient voter.
Elles voulaient afficher leur
publiquement.
Publiquement. Et donc il y avait besoin de leur rappeler que ce n'était pas la règle en France.
D'accord.
Oui, c'est un cas d'annulation. Si un nombre significatif de personnes ont refusé de passer par l'isoloir, significatif, c'est-à-dire tel qui peut changer le résultat, à ce moment-là, c'est un motif d'annulation.
C'était pas par manque de culture politique.
Non.
C'était vraiment un choix de.
C'était un geste politique.
C'était un geste politique.
Et comment ça s'est résolu?
De déritualisation. Et ce qui était choquant, c'est que, justement, moi, j'avais emmené mes enfants petits à l'époque pour leur apprendre ce que c'était. Et je suis tombée sur une situation anormale. Et donc, j'ai dit qu'elle était anormale. Normal, mais en fait, le bureau de vote n'a pas bronché. Et donc,
mais la personne est passée dans l'isoloir finalement ?
Non, elle n'est pas passée dans l'isoloir.
Donc elle n'a pas voté ?
Elle a voté en ayant affiché son vote. Et donc, bon, moi, je n'allais pas passer énormément de temps.
Il se passe plein de
mais
choses
ce que je veux dire, c'est que ce genre d'objet qui paraît évident est très facile à déritualiser s'il n'y a personne pour le protéger. Et donc, nos institutions qui sont très raffinées, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord, en tant que moment électoral, au moment du vote à proprement parler, je trouve que c'est pas aussi pertinent si on élargit la focale. Mais elles sont fragiles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est fragile.
Voilà. Cette fragilité, c'est peut-être ce que voulait dire Raymond Aron qui disait, vous le citez Laurent Pernot, « Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts plutôt que leurs passions n'ont rien compris au XXe siècle. » Et vous rajoutez « au XXIe siècle également. »
Au XXIe siècle non plus, oui. Oui, c'est toujours cette idée selon laquelle l'explication par le fonctionnement rationnel ne rend pas compte de l'ensemble du processus. Un corps électoral, ça n'est pas comme un comité qui sélectionne un candidat avec un profil de poste en fonction de critères transparents. C'est un grouillement.
Oui, c'est une bouilloire.
Chacun est porté par ses passions puissantes.
Les racines du présent. RCF.
Au micro Frédéric Mounier, dans cette édition des Racines du Présent, nous essayons d'ausculter nos passions électorales, nos passions, nos émotions politiques. Nous sommes en compagnie de deux historiens, Laurent Pernaud, qui vient de publier La fièvre des urnes, 2500 ans de passion électorale aux éditions de l'Observatoire, et Sophie Wanisch, qui vient de publier Le ruban tricolore, un lien politique chez Bayard Éditions. Alors Sophie Wanisch, votre livre commence en 1793 et vous avez trouvé, semble-t-il, l'origine de ce ruban tricolore. En 1793, un projet de loi est destiné à contrôler la présence des étrangers sur le territoire français. Et donc voici le texte de ce projet de loi, dont vous nous raconterez ce qu'il est advenu ou pas. Les étrangers qui obtiennent un certificat d'hospitalité seront tenus de porter au bras gauche un ruban tricolore sur lequel sera marqué le mot hospitalité et le nom de la nation dans laquelle ils sont nés. Et votre analyse, Sophie Wanisch, les trois couleurs seraient-elles une procédure de symbolisation d'une identité nationale chauvine? Déjà en 1793.
Non, c'est pas du tout ce que je cherche à montrer. En fait, ce ruban tricolore, dans un premier temps, dont on imagine que les étrangers devront le porter, ça m'a troublée. Voilà, j'ai découvert cette archive, je me suis dit, mais quand même, c'est étrange, ce désir de pouvoir voir immédiatement dans l'espace public l'étranger. Et en travaillant, je me suis rendu compte que la première fois où on offre les trois couleurs, qui sont quand même les couleurs de la création de la nation, au sens politique moderne, de 1789, c'est en fait beaucoup plus tôt quand on a des déserteurs qui arrivent après la déclaration de paix au monde.
Rappelez-nous.
1790, oui. On affirme que en France, on ne fera plus de guerre de conquête, on ne fera que des guerres de défense, et que les personnes qui estiment à avoir à fuir, leur tyrannie, qu'ils soient soldats ou qu'ils soient autres, pourront trouver refuge, asile politique en France. Donc il y a un certain nombre de personnes qui désertent et qui arrivent. Et à ce moment-là, on leur offre une cocarde qui n'a pas exactement la même signification, parce que l'objet cocarde, c'est un objet plus politique, en fait, sur le plan identitaire que le ruban. Mais le ruban, c'est une sorte de brassard à ce moment-là. Mais ça a une signification autre. C'est une signification, en fait, dans les deux cas, honorifique.
C'est un honneur de le porter.
C'est un honneur de le porter. Donc, c'est pas une position chauvine, c'est une position inclusive. Et donc, il s'agit d'inclure.
C'est bienvenu chez nous, c'est ça?
C'est bienvenu, ouais. Voilà. C'est pas la France, il faut l'aimer ou la quitter. C'est bienvenu, effectivement.
Ouais.
Et en même temps, ce bienvenu est quand même ambigu. Parce que ça permet quand même d'un seul regard de pouvoir savoir qui est qui. Et donc, il y a quelque chose qui est troublant. Mais in fine, ce texte n'est finalement pas entré en vigueur parce qu'il a été transformé. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi, en fait, on pense à cette proposition pour ensuite, quelques mois plus tard, enfin très peu de temps plus tard, un mois plus tard, y renoncer. Et en fait, c'est parce que les objets visuels sont falsifiables. C'est-à-dire que rien ne prouve que vous n'avez pas fabriqué votre petite cocarde, que même porter la cocarde, ça ne prouve pas que vous êtes vraiment révolutionnaire. Ça prouve que vous êtes conformiste. Et le sueur a bien montré comment le conformisme habitait les révolutionnaires, avec l'histoire du bonnet rouge, par exemple. Et donc, il y a quelque chose là où la visibilisation est en fait quelque chose qui est trop falsifiable pour pouvoir être adopté.
D'accord. Voilà. Laurent Pernaud, il y a parmi les passions que vous évoquez dans votre livre, il y en a une qu'on a encore vue à l'œuvre il n'y a pas si longtemps que ça en France, c'est la question de la violence. La violence politique est-elle pour vous une passion française? Est-ce que c'est structurel dans notre histoire politique, Laurent Pernaud?
La violence est motivée par la passion.
Oui.
En soi, elle peut être motivée par différentes passions. Il y a la violence de la colère, la violence de l'enthousiasme révolutionnaire. Il y a différentes possibilités. Ça n'est pas du tout l'apanage de la France, Dieu merci. Et en particulier dans les élections, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pays où les passions s'expriment de manière beaucoup plus forte jusqu'à truquer le résultat des élections. Hein. Vous connaissez, il y avait un dictateur sud-américain qui disait l'important, c'est pas de gagner le scrutin, c'est de gagner le dépouillement. Par exemple, et donc les passions s'expriment là jusqu'au résultat inclus. Nous allons peut-être entendre la scène qui a mis aux prises les manifestants avec
Alors,
le président de la République.
J'allais le dire, Laurent Pernot, parce que vous citez cet épisode dans votre livre. Donc nous sommes le 14 juillet 2020, nous sommes dans le jardin des Tuileries. C'est l'après-midi du 14 juillet, donc la fête nationale, le jardin des Tuileries, hein, au lieu de notre histoire révolutionnaire également. Et donc le président de la République, après la réception à l'Élysée, après le défilé, eh bien le président de la République se promène avec son épouse Brigitte Macron dans les jardins des Tuileries. Et nos confrères de RMC nous ont rappelé, on va écouter cette confrontation, puisque le président Macron a croisé là quelques gilets jaunes. On va écouter un extrait de leur dialogue. Nous sommes le 14 juillet 2020 aux Tuileries.
C'est donc une fin de 14 juillet mouvementée pour Emmanuel Macron, le président de la République, hué et chahuté par un groupe de gilets jaunes alors qu'il se promenait en compagnie de son épouse dans le jardin des Tuileries hier soir. Une scène diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Margot Bourdin, le chef de l'État, a notamment été prise à partie au sujet des violences policières.
C'est incroyable.
Un petit groupe de personnes prend à partie le couple présidentiel alors qu'il se balade dans le jardin des Tuileries. Emmanuel Macron tente un appel au calme.
Mais soyez cool. Je me balade avec mon épouse, vous m'interpellez.
Mais c'est normal. Vous êtes mon employé.
Ces gilets jaunes reprochent au président d'avoir remis en service les braves, les brigades de répression de l'action violente, des unités à moto créées l'année dernière pour intervenir lors des manifestations de gilets jaunes.
Pourquoi vous avez remis la brave? Pourquoi vous avez fait ça?
C'est des fous.
Enlevez-les dans les manifs. Et vous verrez que ça ira déjà mieux.
Le président réplique. D'abord tendu, le dialogue.
Voilà, nous entendons les passions à l'œuvre. Nous remercions nos confrères de RMC pour la mise en scène qu'ils nous proposent. Donc vous avez entendu cette phrase, Laurent Pernot. Vous êtes mon employé, monsieur le président. Qu'est-ce que ça dit de nos passions françaises, de nos passions politiques?
C'est une phrase époustouflante. C'est une séquence vérité où s'exprime de manière directe une idée qui est très ancienne, selon laquelle le droit de vote donne un pouvoir à l'électeur sur le puissant. Victor Hugo a de très belles analyses sur ce moment où le travailleur tient dans sa main calleuse les puissants, le jour du vote au moins. Et donc là, on en a l'expression la plus directe de la part de ces gilets jaunes. Vous êtes mon employé, monsieur le président, vous êtes mon employé. Heureusement, le président a de la répartie et il a répondu du tac au tac. C'était donc le 14 juillet, hein, après la cérémonie du 14 juillet. Et il a répondu, justement, si je suis votre employé, vous devriez me laisser tranquille puisqu'on est un jour férié.
Voilà. Mais on voit derrière quand même cette revendication qu'on a entendue beaucoup ces dernières années en France du mandat impératif et du mandat révocatoire. C'est-à-dire, je suis l'électeur, je vous désigne, et si vous ne faites pas l'affaire, je vous révoque, car vous me représentez personnellement. C'est ça, cette filiation politique.
Et là, vous posez un problème très brûlant, celui de la réélection.
Oui, naturellement.
Parce que...
Sophie Wenisch, votre regard.
Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, et je suis plutôt d'accord avec le gilet jaune. En particulier parce que, justement, dans la conception républicaine classique et donc aussi révolutionnaire de la période révolutionnaire française, en fait l'idée d'avoir un chef de l'État n'est pas une chose si partagée que ça. Et donc il y a plutôt l'idée qu'il y a un premier fonctionnaire et que le fonctionnaire est un serviteur de l'État en tant que l'État représente le peuple.
Du peuple, oui.
Voilà. Et donc il y a l'idée qu'il n'y a pas de bonne manière de diriger si on n'a pas constamment en tête l'intérêt du peuple, l'intérêt populaire. et que de ce point de vue-là, l'interpellation, c'est une manière de dire vous ne travaillez pas à notre intérêt ni à notre protection, alors que ça fait partie aussi des fonctions d'un président. Et donc il y a l'idée de serviteur du peuple qui se retrouve par exemple dans la série qui a été présentée sur Arte, qui a été la série qui a popularisé Zelensky. Et donc c'est très intéressant parce que justement c'est un historien, le personnage de cette série, et en tant qu'historien il rappelle que effectivement on n'est pas là pour se servir quand on est à la direction
mais
d'un
pour
État,
servir le peuple.
Mais pour servir. D'accord. Et donc quand ces gilets jaunes affirment vous êtes mon employé, eh bien ils ont parfaitement raison. Et ils disent quelque chose donc, de tout à fait précis, et d'autant plus qu'ils ont choisi, évidemment, pour une part d'entre eux, la Révolution française comme script. Et du coup, ils sont dans leur script.
Y compris la guillotine, du reste.
D'une manière, il faut quand même le rajouter, d'une manière évidemment euphémisée, simulacre, et que le simulacre a une fonction rituelle d'apaisement. Et donc, il a été très mal interprété, cet usage de la guillotine.
Alors, n'y a-t-il pas derrière cela, Laurent Pernot, deux visions de la, comment dire, de l'accomplissement des passions politiques françaises? Parce que on entend bien Sophie Wanisch avec ce mandat impératif révocatoire. Et puis, d'autre part, une conception peut-être plus classique qui est le mandat représentatif où je vote et donc je délègue mon pouvoir pour une durée déterminée. Sophie Wanisch et ensuite Laurent Pernot.
C'est pas une opposition entre mandat impératif et mandat représentatif. Les révolutionnaires français ne sont pas fréquemment pour le mandat impératif, contrairement à ce qu'on a beaucoup colporté. Ils sont pour que les représentants soient des représentants soucieux du peuple, donc que subjectivement ils se mettent à la place du peuple, c'est-à-dire qu'ils soient capables de compassion, qu'ils soient capables de réflexion, qui se mettent à la place d'eux.
D'accord.
Et ça veut dire qu'ils doivent utiliser leur lumière et donc être bien du côté de cette démocratie représentative, mais pas pour se servir, pour servir le peuple.
D'accord.
Mais le peuple ne pense pas qu'il n'a pas besoin de représentants. Ouais. Il en a besoin.
Il en a besoin.
Et il a besoin de gens capables d'écrire la loi.
Mais
il faut que ça
conditions.
Soit des lois justes.
Voilà. Laurent Pernot.
Une clé du problème pourrait se trouver de l'autre côté, c'est-à-dire dans les passions des candidats.
Oui,
expliquez-nous. Et des candidats une fois élus. Parce que jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé des passions des électeurs, à juste titre, mais c'est un dialogue. Et donc, aux passions des électeurs répondent celles de leurs candidats. Et ça, ceci doit fonctionner ensemble. Et donc, le moment où l'électeur se plaint de son élu, c'est lorsque celui-ci se laisse se déchaîner ses propres passions, son exaltation ou son ambition. J'ai analysé deux soirées qui me donnent, me semble-t-il, un peu la mesure de cela, deux soirées post-électorales. La première, qui est bien connue, c'est en 2007, la soirée du Fouquet's.
Oui.
Lorsqu'il fut reproché au président Nicolas Sarkozy d'avoir réuni ses amis dans cet établissement le soir de son élection. Alors, il a répondu par écrit.
Il avait réuni certains de ses amis, parce que d'autres ont été exclus et l'ont pas bien vécu. Allez-y, poursuivez, Laurent Pernot.
Il a donné toute une série de justifications en disant c'est pas si cher, c'est sur les Champs-Élysées, c'est un lieu traditionnel de la droite. Le patron était un de mes amis, enfin, etc., etc. Mais cette réponse, qui est tout à fait, comment dire, correcte et convaincante du point de vue rationnel, ne fonctionne pas parce que la question est passionnelle. C'est-à-dire qu'il y a l'indignation de l'électeur face à une autre passion qui serait l'exaltation du candidat. Il se dit, il n'a rien eu de plus pressé que d'aller se goberger à la barbe des citoyens. Mmh. D'où ce problème qui a ressurgi lorsque le président Macron, c'était après le premier tour de la présidentielle
entre
de 2017, a réuni ses partisans, cette fois à la Rotonde.
À Montparnasse, oui.
Donc, voilà, ça c'est le dirigeant qui est emporté par sa passion. Et puis en face, je voudrais rappeler l'élection du pape François en 2013, lorsque, à peine élu, Habemus Papam, etc., il s'est présenté à la loggia du Vatican, comme c'est l'usage, et il a dit « Buonasera ». Bonsoir.
Il a commencé comme ça, effectivement.
Et ces mots qui étaient d'une simplicité totale, familière, ont eu un succès immense. Moi, je connais des fidèles qui ont dit « il m'a salué ». Comme s'il leur avait parlé personnellement, ouais. À cause de ce ton qui était d'une simplicité évangélique absolument géniale. Et donc il y a une antithèse en somme entre le Fouquet's et le Buonasera du pape François qui montre les gammes affectives qui peuvent habiter les candidats.
Alors ces gammes affectives peuvent se jouer aussi sur d'autres supports. Vous évoquez l'élection de John Fitzgerald Kennedy vue par Norman Mailer. Donc un grand reportage qui a été publié par Norman Mailer. Le titre c'était « Superman débarque au supermarché ». Voilà, qui a laissé des traces. Et avec ces extraits de ce texte de l'écrivain américain Norman Mailer, l'arrivée photogénique du héros au bronzage orangé et aux dents incroyablement blanches, et puis cette description en quelques mots de la Convention démocrate, c'était donc il y a bien longtemps, mais cela peut résonner à nos oreilles d'aujourd'hui. La Convention démocrate, selon Norman Mailer, une fiesta, un carnaval, un regroupement médiéval avec hennissement de chevaux et sonnerie de trompettes, où l'on donne libre cours à la cupidité, à la concupiscence pratique, à un idéalisme frelaté, aux ambitions carriéristes, aux pactes et aux luttes de clans. C'est cela, et les passions politiques, Laurent Pernault ?
Là, Mailer a construit une figure, par son talent d'écrivain, une figure exceptionnelle en Kennedy, et ça nous amène à une notion qui est capitale, c'est la notion de charisme.
Oui.
Il a donné à Kennedy du charisme, il l'a présenté comme un personnage charismatique, donc au sens fort, c'est-à-dire au sens qui est chez Saint Paul, c'est-à-dire le charisme comme une grâce surhumaine qui est donnée à un individu pour le bénéfice de la collectivité. Et donc ce mot de charisme qui avait donc ces lettres de noblesse dans l'écriture a été réactivé par la sociologie et la philosophie allemande à partir de la fin du 19e siècle. Et donc Kennedy en est vraiment l'illustration telle que Mailer le crée, c'est-à-dire un homme qui n'est pas supérieur aux autres, qui n'est pas meilleur que les autres, c'est
incarne,
pas ça.
Il incarne
et il fait fonctionner des archétypes qui trouvent un écho spirituel chez ses électeurs.
Sophie Wanisch, cette idée de charisme n'est-elle pas fondamentalement antithétique à la démocratie ?
Non. Elle n'est pas antithétique à partir du moment où celui qui dispose de ce charisme n'en fait pas un usage pour lui-même. Et on retombe sur la même question, c'est-à-dire la question de l'intérêt commun face à l'intérêt individuel et privé. Et donc ce qui peut être reproché à des politiques, c'est justement de ne pas se préoccuper réellement de l'intérêt commun. Et cette question d'intérêt commun est une question qui aujourd'hui est finalement très peu débattue. Et donc il y a quelque chose qui a chuté et qui explique dans une certaine mesure l'apathie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'intérêt qui se déploie avec toute cette fantasmagorie américaine pour le moment électoral aux États-Unis témoigne de la manière dont les gens sont investis. Et moi, j'ai été frappée. J'ai passé une année à Princeton et j'ai observé un peu comment ça fonctionnait in vivo. Enfin, pas uniquement d'une manière livresque ou passagère quand on fait des voyages courts. Et il y a un vrai investissement de tous les niveaux politiques. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui a perduré de la période du XVIIIe siècle, puisque
en
on a les mêmes racines.
En dépit de la marchandisation, en dépit de...
Je dirais, pas en dépit, je dirais, parce que le mode de vie vient faire obstacle aux valeurs de la fondation américaine, et non pas du côté des Tea Party, mais des valeurs en tant qu'elles ont produit un premier idéal démocratique qui joue encore aujourd'hui. Alors, il y a la nécessité d'avoir cet investissement politique pour pouvoir avoir le sentiment de faire partie de the people. Mais ça veut dire nous, le peuple. Parce que, justement, on est à la fois de son quartier, de sa ville, on connaît les politiques locales, on participe et on suit avec intensité ce qui se passe au moment du choix des candidats. Et de ce point de vue-là, il y a le contraire de l'apathie. Voilà.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, dans cette édition des Racines du présent, nous auscultons les passions et les émotions politiques avec deux historiens, Laurent Pernaud, autour de son livre « La fièvre des urnes, 2500 ans de passion électorale » aux éditions de l'Observatoire, et Sophie Wanisch pour son livre « Le ruban tricolore, un lien politique » chez Bayard Édition. Alors, on vient d'évoquer la question du charisme, la question des intérêts communs. Je voudrais vous ramener quelques années, quelques générations en arrière, et on va entendre le général de Gaulle lorsqu'il a proposé au peuple français l'élection au suffrage universel. Nous sommes le 10 octobre 1962.
Le général de Gaulle a expliqué aux Français sa proposition tendant à faire élire le président de la République au suffrage universel.
Français, Français, le projet que je vous soumets propose que le président de la République, votre président, soit élu dorénavant par vous-même. Rien n'est plus républicain, rien n'est plus démocratique, j'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit.
Cette proposition et le recours au référendum devaient susciter une crise ministérielle. Le message du chef de l'État aux assemblées, lu au Sénat par M. Marius Moutet, doyen d'âge, avait été suivi par l'élection pour la 17e fois de M. Monnerville à la présidence de cette assemblée. Trois jours avant, au congrès radical de Vichy, le président du Sénat avait pris violemment position contre cette novation constitutionnelle.
Voilà, on se souvient que Gaston Monnerville, président du Sénat, avait évoqué le mot de forfaiture pour caractériser cette innovation. Alors Laurent Pernaud, est-ce qu'il s'agit cette évolution vers le suffrage universel, dont il faut rappeler que notre pays ne l'avait pas connu depuis Louis-Napoléon Bonaparte, cette évolution est-elle un aboutissement ou une exception dans l'histoire de nos passions politiques ?
Si vous me permettez de répondre à côté, cet extrait est vraiment saisissant par la force rhétorique du général de Gaulle dans cette allocution comme dans toutes les autres, ce jeu sur le vous, la République,
vous et moi.
Voilà, ouais. ces gradations ternaires, enfin c'était vraiment un maître de la parole, et ça fait partie de l'appel aux passions. Et là, je voudrais dire un mot quand même sur cette question du discours, parce que une élection est faite de paroles plus que d'actes. C'est d'ailleurs parfois un reproche qu'on fait aux candidats, c'est d'avoir beaucoup parlé et puis ensuite de ne pas agir suffisamment. Or, la rhétorique ne consiste pas seulement à développer des arguments qui vont être jugés rationnellement par les auditeurs, ça consiste aussi à faire appel à ce qu'ils sont, à leurs affects, à leur caractère. Et ce point-là, pour parler un peu des racines du présent, nous le constatons dans le présent et nous le voyons analysé dans les plus grands textes de la rhétorique. Celui sur lequel je me suis arrêté, c'est la rhétorique d'Aristote, qui a analysé l'importance dans le discours politique de faire appel aux sentiments et aux passions. Ici, il y avait dans le texte du général de Gaulle un appel à la fierté. Entre autres des électeurs, et aussi un appel à l'espoir. Rappelons-nous que les hommes politiques et les candidats en particulier, lorsqu'ils s'adressent à nous, jouent sur nos passions, ce qu'ils peuvent en deviner, et sur notre caractère.
Sophie Wanisch, votre regard sur cet épisode.
Alors, aboutissement ou exception? Je voudrais d'abord corriger, c'est le suffrage universel direct pour l'élection présidentielle.
Oui,
mais
oui,
pas, c'est pas l'affirmation du suffrage universel pour la première fois. La première fois, c'est pour élire justement Louis-Napoléon Bonaparte qui fait un coup d'État, au bout du compte. Mais c'est quand même quelque chose qui est par la seconde
masculin.
Mais enfin, il est masculin jusqu'en 1945, donc c'est pas la spécificité de ce suffrage. Ce suffrage, c'est surtout le sentiment que on n'a pas encore la capacité à prévoir et à sentir ce qui se passe dans cette élection du chef de l'État. Donc il y a quelque chose qui se joue en amont et qui effectivement va ensuite être considéré comme inacceptable. C'est-à-dire, ce qui est inacceptable, c'est qu'il n'y ait pas d'écran de jeu possible entre le président et le peuple. Et donc, qu'il n'y ait pas de capacité à faire jouer ce qu'on appelle des corps intermédiaires, à faire jouer. Et donc, c'est effectivement ça qui est appelé forfaiture, en fait. Et donc, il y a quelque
c'était
chose
le coup
qui
d'état
se
permanent
joue,
caractérisé
le coup
par
d'état permanent
François
de Mitterrand. Mais c'est aussi une manière de faire oublier que la priorité dans une démocratie, c'est pas le pouvoir exécutif, c'est quand même le pouvoir législatif. Or, on est en plein dans une situation dramatique où l'élection présidentielle fait écran à l'élection législative. Et donc, on parle de troisième tour, alors que c'est un enjeu en soi, la manière dont on peuple une chambre.
Qu'est-ce qui vous fait dire, Sophie Wenisch, que la priorité doit être au législatif sur l'exécutif ?
Eh bien, parce que justement, l'exécutif doit servir l'exécution de la loi. Mais ce qui est premier, c'est la fabrique de la loi, en tant que la loi doit refléter l'intérêt commun. Et on a inversé l'ensemble des logiques républicaines et démocratiques en faisant de l'agenda de l'État l'agenda de l'Assemblée. Et donc, il y a quelque chose qui est décidé maintenant au niveau du pouvoir exécutif, qui était auparavant dans des systèmes qui sont moins présidentiels, puisque nous, on est dans un système mixte. Dans les systèmes qui ne sont pas présidentiels, mais c'est la Chambre qui est
Donc, vous soutenez...
Donc, il y a quelque chose à interroger. C'est-à-dire qu'on a été dans un système mixte qui était réellement mixte jusqu'à ce que on fasse en sorte, pour des raisons qui sont pour moi encore à démêler, parce que je pense que c'est une bêtise extrême de Lionel Jospin d'avoir aligné les élections présidentielles sur les élections législatives, parce que ça ne permet pas justement cette mixité
de découpler.
Et du coup, on est dans une situation qui est parfaitement antidémocratique.
Laurent Pernault, quel regard vous portez sur cette analyse ?
Nous sommes portés par une espèce de mystique du chef.
Oui. C'est une constante
qui
dans notre
n'est
histoire.
Pas démocratique.
Oui.
Constante, ouais. pas nécessairement, mais
le saint, le génie,
actuellement,
le héros,
voilà, non, le saint, le génie, le héros. Et j'ajouterais que on revient au charisme en quelque sorte. Oui. En plus, il faut de la chance.
Oui.
La chance qui n'est pas quelque chose d'extérieur, parce que avoir de la chance, c'est savoir prendre sa chance et donc réagir. Le président de la République en 2017 en a donné l'exemple parce qu'il a eu une configuration favorable. Lorsque, peut-on dire, les trois François se sont retirés, François Bayrou pour se rallier à sa candidature, François Hollande en ne se représentant pas et François Fillon en étant, disons, poursuivi par des affaires à point nommé, les trois François lui ont donné les clés de la Maison France et il a su profiter de cette configuration. La question que nous devons nous poser, c'est est-ce que la configuration actuelle ne contient pas, elle aussi, des éléments de chance pour le candidat.
Sophie Wenisch.
Il me semble qu'il y a nécessité vraiment de remettre en question cette conception, non pas charismatique, parce que la question du charisme, c'est encore une fois quelque chose qui peut être très positif. Si vous avez quelqu'un de très droit qui pense vraiment à faire des lois justes, etc., tant mieux s'il a du charisme. C'est pas nécessairement l'absence de grandeur qui produit les grandes démocraties. Donc la question n'est pas là. Donc la présidence ordinaire de François Hollande ne produit pas de transformation, contrairement aux mots du pape. Et donc il y a quelque chose à réfléchir sur nos institutions dans leur rapport entre législatif et exécutif, d'une manière extrême. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un oubli de la nécessité de la penser de la fabrique de la loi et que cette loi, pour qu'elle représente tout le monde, il ne faut pas s'adresser à des segments de personnes, des segments de groupes sociaux, mais essayer de relier. Et c'est un peu l'ambition du ruban tricolore. J'y reviens quand même parce que justement, ce n'est ni la cocarde ni le drapeau. C'est un ruban qui permet de pouvoir relier les différentes composantes de la société et du territoire. Et en conséquence, c'est un souci de la fabrique d'une société, de faire en sorte qu'il y ait de la société. Aujourd'hui, on est avec, bien sûr, les travers de l'individualité qui porte que porte l'élection, puisque c'est une voix, un homme, et ça depuis la Révolution française. Mais on est dans une situation où l'individualité l'a tellement emporté qu'il n'y a plus de pensée de
commune.
La construction de la société par le politique.
Oui.
Et là, on est dans une situation qui est dramatique. Et c'est pour ça que ce travail sur le ruban tricolore, c'est pas un travail sur la question des couleurs nationales. C'est la manière dont le ruban, en tant que c'est un objet qui noue, voilà, qui fabrique la possibilité
N-O-U-S.
Et voilà, voilà, ça fabrique cette possibilité du social.
Je voudrais revenir avec vous, Laurent Pernot, sur un épisode de notre histoire. Vous avez travaillé sur Balzac. Balzac qui a scruté les élections législatives de 1839 à Arcis-sur-Aube. Arcis-sur-Aube, il faut se rappeler que c'était le lieu de naissance de Danton également. Balzac écrit « Une petite ville enfante un député », et ça fait d'une certaine façon écho aux propos de Sophie Wanisch. Et il voit là-dedans un spectacle majestueux et naturel auquel on ne peut comparer que celui d'un accouchement. Mêmes efforts, mêmes impuretés, mêmes déchirements, mêmes triomphes. Laurent Pernot, expliquez-nous comment ça se passait en 1839 dans l'Aube.
Donc c'est un roman de Balzac, un roman inachevé, intitulé « Le député d'Arcis ». Et inachevé non pas par dédain, mais parce que Balzac y a passé des années et des années. Et c'était un projet tellement grandiose que ses forces déclinantes à la fin de sa vie ne lui ont pas permis de le mener à bien. Mais ce qu'il en reste est déjà une description prodigieuse. Ça illustre un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on trouve décrites et analysées des passions qui sont encore celles d'aujourd'hui.
Oui.
La colère de l'électeur, l'ivresse dominatrice, l'ambition haute ou basse du candidat, tout cela est déjà là, mais dans un système très différent de celui d'aujourd'hui, avec
un petit nombre
d'électeurs surtout. Donc ce qui
le suffrage était sans itère, il faut le rappeler, selon l'impôt que vous payiez.
Exactement. Mmh. Et par conséquent, l'administration et le gouvernement pouvaient contrôler presque individuellement chacun de ces électeurs
et
en leur faisant passer des consignes et des pressions.
Mmh.
Je voudrais citer une autre phrase de Balzac dans ce même roman. En France, au scrutin des élections, il se forme des produits politico-chimiques où les lois des affinités sont renversées.
Pourquoi renversées, Laurent Pernot?
C'est-à-dire qu'on attendrait qu'un candidat se range, enfin qu'une personnalité se range sous la bannière d'un candidat, et en réalité, il va en choisir un autre. Est-ce que ça n'est pas d'une grande actualité? Ça, nous voyons bien des hommes que nous attendions dans un parti et qui soutiennent un autre candidat. Donc ces affinités électives peuvent bouger selon les circonstances.
Alors, on a envie de vous poser une question. On arrive bientôt au terme de cette édition des Racines du présent. Vous évoquez l'un et l'autre les passions, les émotions, mais avez-vous observé des divergences ou des convergences selon les aires culturelles, selon qu'on est dans le monde latin, dans le monde anglo-saxon, dans le monde slave, dans le monde asiatique? Que peut-on dire de ces différences, Laurent Pernot?
C'est un immense sujet. Mmh. Les passions font partie de la nature humaine et du fond reptilien, donc il est sûr qu'on les retrouvera dans différentes cultures, c'est certain. Après, le ressenti, le contrôle et la manifestation des passions changent beaucoup, et donc sans être un spécialiste des sociétés asiatiques, je suis sûr que l'analyse des passions électorales en Chine ou au Japon serait différente de la nôtre. Mais le fond est le même, je crois.
C'est-à-dire ?
L'homme.
Sophie Wanisch, vous constatez cette permanence ?
Je pense que il y a du métissage culturel.
Oui.
Donc du coup, pendant les périodes électorales, qui ne sont pas des formations rituelles du monde asiatique, eh bien c'est plutôt des passions métisses qui surgissent. Et donc il y a aussi une certaine violence pour avoir regardé ce qui se passait au Japon, qui peut se déployer dans des moments tels que les élections. C'est particulièrement violent en Inde.
Mmh.
Où pourtant il y a un rapport aux passions qui est supposé produire un idéal d'ataraxie. Et donc la question des passions peut-être est inséparable des moments politiques où il y a la possibilité de se sentir effectivement dans la puissance de son acte, donc d'être acteur de l'histoire. Et que c'est quelque chose qui n'était pas donné du tout aux Japonais avec l'Empire, qui n'était pas donné bien sûr dans le monde indien avec un système de caste, Mais le système électoral fait que chacun a cette puissance. Alors, et du coup produit des émotions qui peuvent se déployer, je dirais, d'une manière métisse dans ce moment spécifique.
Alors, dans
mais ça ne veut pas dire que c'est les mêmes émotions partout. Ça veut dire que certains types de pratiques encadrent un certain type d'émotions.
Mais certains nous expliquent que ce certain type de pratique, ces modes électoraux qui sont les nôtres, cette démocratie qui est la nôtre, serait finalement spécifiquement occidentale et qu'elle serait difficilement transposable ailleurs. Comment vous réagissez, Sophie Wenisch?
Pas que c'est que c'est pas vrai de fait, c'est-à-dire que les institutions démocratiques, on a bien vu, en particulier dans les révolutions du printemps arabe, sont des institutions qui sont désirées par le monde qui s'est mis en révolution. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait pour des raisons qui ne sont pas le manque d'appétence à la démocratie. Au contraire, il y a eu en Tunisie une capacité, par exemple, à réclamer des représentants de l'Assemblée constituante qu'ils soient présents, présents à l'Assemblée, qu'ils ne passent pas leur temps à faire autre chose. Et on les a enregistrés, on a enregistré des salvides, on leur a fait honte, etc., parce qu'on voulait qu'ils soient là, les représentants. Et donc non, c'est quelque chose qui est acclimatable. Mais il faut comprendre que désirer un modèle qui a une prétention à pouvoir justement se modeler à différents endroits, il faut supporter qu'il y ait les modelages. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas identique et c'est important.
En un mot, Laurent Pernault, la démocratie est-elle désirée universellement?
Depuis la démocratie grecque.
Oui,
il faut depuis 2500 ans. Il faut partir des Grecs.
Très bien. Un grand merci à vous deux. Je rappelle le titre de vos livres, Laurent Pernault, La fièvre des urnes, 2500 ans de passion électorale. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Sophie Wenisch, Le ruban tricolore, un lien politique. C'est publié chez Bayard Éditions. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Et puis vous pouvez aussi écouter et réécouter en balado-diffusion à partir du site de RCF ou de votre plateforme favorite de podcast. Eh bien, vous pouvez réécouter les éditions précédentes des Racines du présent. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.